Christophe Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Groupama Asset Management. On va revenir avec vous sur les perspectives économiques. Si vous voulez bien, on commence par les États-Unis peut-être. Quel regard vous portez-vous sur les États-Unis? Il y a des avis un peu divergents. Il y a ceux qui considèrent que ça y est, l'économie américaine repart. L'analyse que vous faites aujourd'hui sur cette économie?
Alors, en fait, chez Groupama Asset Management, ça fait déjà un certain temps qu'on est plutôt positif sur les États-Unis et on a des adjectifs qui sont élogieux. C'est une économie qui est aujourd'hui robuste, avec une croissance qui est équilibrée et autonome. Et depuis très peu de temps, on peut même rajouter un autre adjectif, c'est qu'on voit des signes très clairs d'accélération. C'est-à-dire même par rapport à un scénario sur lequel on était positif, on est encore conforté aujourd'hui avec ce qu'on voit dans les indicateurs de climat des affaires. Alors pourquoi est-ce que c'est une croissance qui est robuste et équilibrée? D'abord parce qu'on la voit partout, dans tous les secteurs. Elle est partagée. On voit que ça accélère dans l'industrie, ça accélère dans les services, et puis ça accélère dans la construction. C'était un peu le maillon faible. La construction allait un petit peu moins bien aux États-Unis. Ça, c'était lié à la hausse des taux hypothécaires. Et donc, il y a eu un coup de froid sur la construction. Mais là, quand on voit que ça accélère partout simultanément, bah, c'est robuste. Et ça veut dire que l'économie américaine, là, elle est forte. Et il pourrait arriver un choc. On pourrait dire qu'elle résiste aujourd'hui.
Donc, en quelque part, on a passé ce doute peut-être du premier trimestre, clairement.
Oui. Oui. On a passé ce doute. Et puis on voit même, quand on regarde les indicateurs de climat des affaires, si on a construit un indicateur synthétique, on est au plus haut. C'est-à-dire au plus haut depuis l'historique, c'est-à-dire vraiment ça accélère. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on va retrouver les niveaux de croissance qu'on a connus dans le passé, mais aujourd'hui, on est sur des croissances qui sont bien au-dessus du potentiel. Donc, c'est une économie aujourd'hui où ça va bien. C'est aussi autonome. L'emploi s'améliore à peu près progressivement, continuellement. Et puis, on voit même surtout un investissement, parce que c'était un autre des maillons faibles qui montre des signes d'amélioration.
Ça légitime encore plus le débat sur les remontées des taux, puisqu'on a vu qu'au sein même de la Fed, il y avait ce débat-là et que certains disaient il faut y aller maintenant. La présidente, elle, étant toujours sur son calendrier 2015.
Alors, la présidente, alors il faut toujours se méfier parce que je pense que Yellen est souvent mise dans la catégorie des dos structurels. Non, c'est quelqu'un qui est extrêmement pragmatique et qui sait changer d'avis quand il faut changer d'avis. Elle l'a montré dans le passé. Donc attention, il y a un moment donné, elle va changer d'avis. Nous, on pense effectivement que non seulement la Fed va démarrer son resserrement monétaire plutôt que ce que pense le marché, donc c'est en gros à la sortie d'hiver, début du printemps, mais que derrière, le chemin de la remontée sera aussi plus pentu que ce que pense le marché. Parce qu'effectivement, quand on regarde objectivement les objectifs de la Fed, c'est-à-dire le chômage et l'inflation, on n'est pas si éloigné de ça, de ces objectifs. Alors évidemment, sur le marché de l'emploi, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais ça s'améliore tous les mois, régulièrement, progressivement. Donc à un moment donné, elle va remonter. Face à ça, on a une politique monétaire qui n'a jamais été aussi accommodante. Pourquoi? Parce que les Fed Funds sont extrêmement bas, parce qu'il y a le bilan de la Fed qui a reflaté. Donc je pense que s'il y a aujourd'hui maintenant une sorte de nouveau maillon faible dans l'économie américaine, il est à regarder du côté de la Fed. Comment elle va gérer ça? Parce que quand on n'est pas si éloigné de cela des objectifs et qu'on a une politique monétaire qui est extrêmement accommodante, comment on sort de tout ça? Je pense que c'est là qu'est le défi. C'est plutôt bien parti, c'est plutôt robuste, mais la stratégie de sortie, c'est ça reste un défi et il n'est pas encore gagné.
Non, on a toujours des investisseurs qui effectivement pensent que le pilotage va bien se faire, mais on le verra quand on y sera. Quelque part, c'est très difficile à mesurer. Alors, si on passe de l'autre côté effectivement de l'Atlantique, en Europe, là, on est dans une autre situation, clairement. Est-ce que, après les dernières mesures de la Banque centrale européenne, certains ont même dit que ça arrive trop tard. Quel est un peu le regard sur la zone euro en ce moment?
En tout cas, déjà, le regard des marchés, c'est que, je ne sais pas si ça arrive trop tard, mais en tout cas, la Banque centrale européenne n'a pas pris une formidable avance. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, quand on est comme ça, avec une situation qui est assez fondamentale, qui est assez dégradée, parce qu'il reste beaucoup, beaucoup de dettes et qu'on n'a pas beaucoup purgé ça, il est nécessaire, quand on est aussi proche d'un risque de déflation, de prendre de l'avance, hein, de surprendre. Aujourd'hui, elle n'a probablement pas suffisamment surpris. Elle fait un petit peu plus à chaque fois, mais elle n'a pas mis le gros coup de poing sur la table qui permet de rassurer définitivement les investisseurs sur le risque de déflation. Donc non, on n'est pas sorti de l'ornière, ça va être très compliqué en zone euro, parce que au final, il y a deux problèmes. Le premier, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, une situation d'endettement qui n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'il y a un endettement public très important, mais aussi un endettement privé qui reste élevé. Du côté des ménages ou des entreprises européennes, on n'a pas beaucoup ajusté les bilans. Donc, quand on a comme ça un excès de dette, bah, c'est difficile de faire repartir la machine. Voilà. Donc, ça, tant qu'on n'aura pas vu, nous, un mouvement significatif du côté des désendettements, on ne sera pas rassuré sur la situation fondamentale de la zone euro. Elle aura du mal à repartir. Elle pourra toujours compter sur l'externe, mais les ressorts domestiques ne seront jamais là. Puis le deuxième gros problème de la zone euro, ça c'est pas nouveau, c'est au fond un problème qui est institutionnel et qui est sa gouvernance et qui fait que, alors qu'il faudrait réagir sans doute ou surréagir face à un risque, on ne le fait pas. On court derrière, que ce soit du côté de la politique budgétaire fiscale, que ce soit du côté de la politique monétaire où la Banque centrale fait quand même beaucoup de choses, elle est allée très très loin, elle a sorti le bazooka de la politique monétaire, elle a été dans le non conventionnel, au final elle a fait des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, mais il faut prendre de l'avance dans ces cas-là, il faut être très préemptif, et aujourd'hui ce n'est pas ce qu'on voit, et on ne voit pas ça ni de l'un ni de l'autre, et puis il n'y a surtout pas de coordination des politiques économiques, on ne se parle pas suffisamment, et ça l'expérience japonaise est intéressante parce qu'elle nous rappelle que pour être définitivement convaincu qu'on est sorti du risque de déflation, il faut être préemptif. Donc aujourd'hui effectivement on n'est pas rassuré du côté de la zone euro.
Alors si on s'éloigne un petit peu, on va parler des pays émergents. C'est vrai qu'il y a quelques années encore on aurait parlé des pays émergents comme un groupe assez homogène. Aujourd'hui, on parle pays par pays, vu ce qui se passe sur le plan économique. Est-ce que, de votre point de vue, la situation peut être aussi là dangereuse ou il peut y avoir des risques toujours sur ces pays émergents? Alors, on pourrait penser au Brésil qui rentre en récession, mais oui. Croissance chinoise peut être un petit peu chaotique.
Voilà. Alors, dans l'ensemble, sur les pays émergents, donc effectivement, vous avez raison, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier, c'est des situations très différenciées. Mais globalement, il y a mauvaise nouvelle peut-être à venir et puis une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle se situe du côté des prix agroalimentaires. Ils sont en train de baisser sensiblement. D'ailleurs, ça bénéficie à l'ensemble du monde, mais particulièrement aux pays émergents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors qu'on a une baisse des prix agroalimentaires, on a un peu moins d'inflation. Donc, ça va être fondamental du côté des banques centrales, parce que dans ces pays-là, ça va donner un petit peu plus de disponibilité. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, elle est plutôt à regarder du côté toujours de la Fed. Parce que à partir du moment où j'ai dit que ce n'était pas encore quelque chose d'acquis de gagner ce défi de la stratégie de sortie de la politique monétaire non conventionnelle, ça reste un risque immanquablement du côté des émergents. Et donc le scénario du printemps 2013, avec ce malentendu du côté de la Fed en termes de communication, ça reste toujours une menace du côté des pays émergents. Donc en gros, on balance entre ces deux forces. Après, vous citez le cas de la Chine. La Chine, ça reste, c'est à part. La Chine est en train de changer de modèle de croissance. C'est un modèle de croissance qui reposait sur les exportations. On a, dans certains secteurs, eu des suraccumulations. Donc là, il faut purger. Elle va changer de modèle et passer sur un modèle reposant sur l'urbanisation, la croissance. Bon. Donc on n'est pas trop inquiet sur le fait qu'il y aura à peu près la croissance. Dans très très longtemps, on va finalement se reposer la question, mais c'est quoi le modèle de croissance de la Chine? C'est quoi son avantage comparatif dans l'économie mondiale? Parce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas tellement, mais ce n'est pas tout de suite. Donc on a plutôt quelque chose qui est en train de se rééquilibrer gentiment, progressivement, c'est plutôt rassurant. L'enjeu, il est plutôt financier. Là, c'est aussi un endroit dans lequel il y a eu de la dette. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a de la dette qui s'est accumulée, de la dette privée, de la dette des collectivités, et avec une accélération extrêmement forte. Donc ça, à un moment donné, ça ne peut pas continuer. La seule bonne nouvelle, c'est que la Chine, en gros, a les moyens de restructurer cette dette, au fond, parce qu'elle a les moyens fiscaux et puis il y a des réserves de change.